De sorte que si le monde ne me domine pas, je suis en revanche d'autant plus fatalement dominé par l'esprit d'amour. J'ai vaincu le monde pour devenir l'esclave de cet esprit. Si j'ai dit d'abord « j'aime le monde », je puis tout aussi bien ajouter à présent « je ne l'aime pas, car je l'anéantis comme je m'anéantis, j'en use et je l'use. Je ne m'abstreins pas à n'éprouver pour les hommes qu'un seul et invariable sentiment. Je donne libre carrière à tous ceux dont je suis capable. Pourquoi ne le déclarerais-je pas crûment? Oui, j'exploite le monde et les hommes. Je puis ainsi rester ouvert à toutes espèces d'impressions, sans qu'aucune d'elles m'arrache à moi-même. Je puis aimer, aimer de toute mon âme, et laisser brûler dans mon cœur le feu dévorant de la passion, sans cependant prendre l'être aimé pour autre chose que pour l'aliment de ma passion. Un aliment qui l'aiguise sans la rassasier jamais. Tous les soins dont je l'entoure ne s'adressent qu'à l'objet de mon amour, qu'à celui dont mon amour a besoin, au bien-aimé. Combien il me serait indifférent, n'était mon amour? C'est mon amour que je repais de lui, il ne me sert qu'à cela, je jouis de lui. Choisissons un autre exemple, tout actuel, celui-ci. Je vois les hommes plongés dans les ténèbres de la superstition, harcelés par un essaim de fantômes. Si je cherche, dans la mesure de mes forces, à projeter la lumière du jour sur ces apparitions de la nuit, croyez-vous que j'obéisse à mon amour pour vous? J'écris peut-être par amour pour les hommes? Eh non, j'écris parce que je veux faire à des idées qui sont mes idées une place dans le monde. Si je prévoyais que ces idées dussent vous ravir, la paix et le repos, si dans ces idées que je sème je voyais les germes de guerre sanglante et une cause de ruine pour maintes générations, je ne les répandrais pas moins. Faites-en ce que vous voudrez, faites-en ce que vous pourrez. C'est votre affaire et je ne m'en inquiète pas. Peut-être ne vous apporteront-elles que le chagrin, les combats, la mort, et ne seront-elles que pour bien peu d'entre vous une source de joie. Si j'avais à cœur votre bien-être, j'imiterais l'Église qui interdit aux laïcs la lecture de la Bible, ou les gouvernements chrétiens qui se font un devoir sacré de défendre l'homme du peuple contre les mauvais livres. Non seulement ce n'est pas pour l'amour de vous que j'exprime ce que je pense, mais ce n'est pas même pour l'amour de la vérité. Non. Je chante comme chante l'oiseau qui habite dans le feuillage. Le chant même que produit ma voix est mon salaire et un salaire royal. Je chante parce que je suis un chanteur. Si pour cela je me sers de vous, c'est que j'ai besoin d'oreilles. Quand le monde se trouve sur mon chemin, et il s'y trouve toujours, je le consomme pour apaiser la faim de mon égoïsme. Tu n'es pour moi qu'une nourriture, de même, toi aussi tu me consommes et tu me fais servir à ton usage. Il n'y a entre nous qu'un rapport, celui de l'utilité, du profit, de l'intérêt. Nous ne nous devons rien l'un à l'autre, car ce que je puis paraître te devoir, c'est tout au plus à moi que je le dois. Si pour te faire sourire, je t'aborde avec une mine joyeuse, c'est que j'ai intérêt à ton sourire et que mon visage est au service de mon désir. À 1000 autres personnes que je ne désire pas faire sourire, je ne sourirai pas. Cet amour qui se fonde sur l'essence de l'homme et qui, dans la période chrétienne et morale, pèse sur nous comme un commandement, on doit y être dressé. C'est à l'influence morale, le principal facteur de notre éducation, à y pourvoir. Comment s'y prend-on pour régler les relations entre les hommes? C'est ce que nous allons du moins pour un cas particulier étudier ici avec les yeux de l'égoïsme. Ceux qui nous élèvent apportent un soin tout particulier à nous déshabituer de bonheur du mensonge et à nous inculquer ce principe qu'il faut toujours dire la vérité. Si on fondait cette règle sur l'égoïsme, tout le monde s'en pénétrerait facilement. On comprendrait sans peine que le menteur perd de gaieté de cœur la confiance qu'il désire inspirer aux autres. Et on sentirait combien il est juste de dire que le menteur n'est pas cru, même quand il dit vrai. Mais chacun sentirait en même temps qu'il ne doit la vérité qu'à celui que lui-même autorise à entendre cette vérité. Supposez qu'un espion rôde dans le camp ennemi sous un vêtement emprunté et qu'on lui demande qui il est. Ceux qui posent la question sont évidemment en droit de le faire, mais l'homme déguisé ne leur donne pas le droit d'apprendre de lui la vérité. Aussi leur dira-t-il tout ce qu'il lui plaira d'inventer, mais non ce qui est vrai. Et pourtant la loi morale dit « Tu ne mentiras pas ». La morale donne donc à ceux qui m'interrogent le droit d'attendre de moi la vérité, mais moi je ne leur donne pas, je ne reconnais d'autre droit que celui que j'accorde moi-même. Autre exemple. La police pénètre dans une assemblée révolutionnaire et demande son nom à l'orateur. Tout le monde sait que la police a le droit de le faire. Seulement, ce droit, elle ne le tient pas du révolutionnaire qui est son ennemi. Il lui donne un faux nom et il lui ment. Mais la police n'est pas assez naïve pour se fier à la véracité de ses ennemis. Au contraire, elle ne croit rien sans preuve et tâche autant que possible d'établir l'identité de l'individu qu'elle a interrogé. L'État lui-même agit toujours avec défiance envers les individus, parce qu'il reconnaît dans leur égoïsme son ennemi naturel. Il lui faut toujours la preuve, et celui qui ne peut pas fournir cette preuve devient l'objet de recherches inquisitoriales, d'une enquête. L'État ne croit pas l'individu et n'a pas confiance en lui. Il vit avec lui sur le pied de la défiance mutuelle. Il ne se fie à moi que quand il s'est convaincu de la véracité de mes assertions, et pour cela il n'a souvent d'autre moyen que le serment. Ce moyen prouve que l'État ne se fie pas à notre amour de la vérité, à notre sincérité, mais seulement à notre intérêt, à notre égoïsme. Il compte que nous ne voudrons pas nous brouiller avec Dieu par un parjure. Imaginez-vous à présent un révolutionnaire français de 1788 qui, entre amis, ait laissé échapper la phrase devenue célèbre. Le monde n'aura pas la paix avant qu'on ait étranglé le dernier des rois avec les boyaux du dernier des prêtres. À cette époque, le roi possède encore toute sa puissance. Le hasard a ébruité le propos, mais on ne saurait pourtant citer aucun témoin. On veut obtenir que l'accusé avoue. Doit-il ou ne doit-il pas avouer? S'il nie, il ment et reste impuni. S'il avoue, il est sincère et on lui coupe la tête. Il met la vérité au-dessus de tout? Soit qu'il meure. Il faudrait n'être qu'un poète bien misérable pour ramasser cette mort comme un sujet de tragédie. Car quel intérêt y a-t-il à voir comment un homme meurt par lâcheté? Si notre homme avait le courage de ne pas être esclave de la vérité et de la sincérité, voici à peu près ce qu'il dirait. Quel besoin les juges ont-ils de savoir ce que j'ai dit à mes amis? Si j'avais eu l'intention de leur en faire part, je le leur aurais dit comme je l'ai dit à mes amis, mais il ne me plaît pas qu'ils le sachent, ils prétendent s'imposer à ma confiance sans que je la leur ai accordée, sans que j'aie voulu faire d'eux mes confidents. Ils veulent connaître ce que moi je veux cacher. Approchez donc, vous qui croyez que votre volonté brisera la mienne. Approchez, juges et bourreaux, et montrez votre savoir-faire. Vous pouvez me mettre à la torture, vous pouvez me menacer de l'enfer et de la damnation éternelle, vous me briserez peut-être au point de me faire prêter un faux serment. Mais vous ne m'arracherez pas la vérité. Car je veux vous tromper, car je ne vous ai donné aucune autorité, aucun droit sur ma sincérité. Et malgré les menaces du Dieu qui est la vérité même, malgré l'amertume du mensonge, j'ai le courage de mentir. Lors même que je serais dégoûté de la vie et que rien ne me paraîtrait plus désirable que la hache du bourreau, vous n'auriez pas la joie de trouver en moi un esclave de la vérité, de me faire trahir ma volonté par vos ruses d'inquisiteur. Si en prononçant les paroles dont on m'accuse, je me suis rendu coupable de haute trahison, je ne m'adressais pas à vous et vous deviez les ignorer. Ma volonté est immuable et l'horreur du mensonge ne m'effrayera plus. Si Sigismond est un triste sire, ce n'est pas parce qu'il a violé sa parole de prince, mais s'il a enfreint sa parole, c'est parce qu'il était un coquin. Il aurait pu tenir parole et n'en aurait pas moins été un plat coquin, un valet de prêtraille. Luther, poussé par une force supérieure, a été infidèle à ses vœux monastiques. Il le fut pour l'amour de Dieu. Tous deux ont violé leur serment parce qu'ils étaient asservis. Sigismond, parce qu'il voulait se montrer le disciple fidèle de la vérité divine, c'est-à-dire de la vraie foi, de la foi catholique. Luther, pour rendre témoignage fidèlement de tout son cœur et de toute son âme en faveur de l'Évangile. Tous deux furent parjurés pour ne pas mentir à la vérité suprême. Le premier fut absous par les prêtres, le second le fut par lui-même. À quoi pensaient-ils tous deux, sinon à ce qu'exprime cette parole de l'apôtre ? Ce n'est pas aux hommes, mais à Dieu que tu mens. Ils mentaient aux hommes, ils violaient leur serment aux yeux du monde pour ne pas mentir à Dieu et pour le servir. Ils nous montrent ainsi comment on doit en user avec la vérité à l'égard des hommes. En l'honneur de Dieu et pour l'amour de Dieu, un parjure, un mensonge, une parole princière violée. Et si, changeant deux mots à la phrase, nous écrivions « Un parjure et un mensonge pour l'amour de moi », ne serait-ce pas nous faire l'avocat de toutes espèces de bassesses et d'infamies ? Peut-être, mais que fait-on d'autre en disant « pour l'amour de Dieu » ? L'amour de Dieu ? Quelles infamies n'a-t-on pas commises pour l'amour de Dieu ? Quels échafauds n'a-t-on pas inondés de sang pour l'amour de Dieu ? Quels autodafés n'a-t-on pas allumés pour l'amour de Dieu ? L'amour de Dieu ? Et pour qui donc l'intelligence humaine a-t-elle été abrutie ? Pour qui, aujourd'hui encore, l'éducation religieuse enchaîne-t-elle l'esprit dès la plus tendre enfance ? N'a-t-on pas, pour l'amour de Dieu, rompu des vœux sacrés ? Et tous les jours, des missionnaires et des prêtres ne parcourent-ils pas le monde pour amener des juifs, des païens, des protestants, des catholiques, etc., à trahir la foi de leur père, toujours pour l'amour de Dieu ? Y aurait-il un grand mal à ce que tout cela se fît pour l'amour de moi ? Que signifie donc « pour l'amour de moi » ? Tout d'abord, cela donne l'idée d'une spéculation ignoble. Celui qui spécule en vue d'un gain sordide le fait en effet pour l'amour de soi, puisqu'il n'est en somme rien que l'on ne fasse pour l'amour de soi, par exemple, tout ce que l'on fait à la plus grande gloire de Dieu. Mais ce soi-même pour lequel il recherche le gain est l'esclave du gain. Il ne s'élève pas au-dessus du gain, il appartient au gain, au sac d'argent, et ne s'appartient pas. Il n'est pas son maître. Un homme que gouverne la passion de l'avarice ne doit-il pas obéir aux ordres de cette maîtresse ? Si, une fois en passant, il se laisse aller à une généreuse faiblesse, cela ne paraîtra-t-il pas tout simplement une exception, juste comme lorsque de fidèles croyants, à qui vient à manquer la conduite de leur maître, tombent dans les embûches du diable ? Donc un avare n'est pas son possesseur, il est esclave, et il ne peut rien faire pour l'amour de soi sans le faire en même temps pour l'amour de son maître, tout comme celui qui craint Dieu. Le parjure de François Ier envers l'empereur Charles Quint est célèbre. Ce n'est pas quelque temps après, en réfléchissant mûrement à la promesse faite, c'est immédiatement, au moment même où il prêtait serment, que François la rétracta tacitement par une restriction mentale à laquelle avaient d'avance souscrit ses conseillers. Le parjure fut prémédité. François était tout disposé à acheter sa liberté, mais le prix qu'en exigeait Charles lui paraissait trop élevé et déraisonnable. J'admets que Charles fut dupe de son avarice en cherchant à soutirer de son prisonnier la plus grosse somme possible. Mais il n'en fut pas moins misérable de la part du roi de vouloir racheter sa liberté au prix d'une rançon plus faible qu'il n'était convenu. La suite de son histoire, où s'étale un second parjure, démontre d'ailleurs à suffisance qu'il était possédé d'un esprit de trafic qui faisait de lui un bas filou. Que répondre à ceux qui lui reprochent ce faux serment ? D'abord, sans doute, nous répéterons que s'il se déshonora, ce ne fut pas tant par son parjure que par son avarice, que ce n'est pas son parjure qui le rendit méprisable, mais que c'est parce qu'il était un méprisable personnage qu'il s'en rendit coupable. Toutefois, considéré en lui-même, le parjure de François doit être autrement jugé. Pourrait-on dire que François ne répondit pas à la confiance que Charles lui témoignait en lui rendant la liberté ? Si Charles avait eu réellement confiance en lui, il lui aurait dit le prix que lui semblait valoir sa mise en liberté. Puis il lui eut ouvert la porte de sa prison et eut attendu que François lui envoyât la rançon convenue. Mais cette confiance, Charles ne l'éprouvait pas. Il ne se fiait qu'à la faiblesse et à la crédulité de François, lesquels, croyait-il, ne lui permettraient pas de manquer à son serment. François ne trompa que ce calcul trop crédule. C'est précisément en croyant trouver une garantie dans le serment de son ennemi que Charles l'affranchit de toute obligation. Il avait supposé chez le roi de France de la sottise, de l'étroitesse de conscience. Et il mettait sa confiance non pas en François, mais dans la sottise, c'est-à-dire la scrupulosité de François. Il ne lui ouvrait les grilles de sa prison de Madrid que pour refermer sur lui les grilles plus sûres de la conscience. Cette prison où la religion enferme l'esprit humain. Il le renvoyait en France, garrotté de liens invisibles. Quoi d'étonnant à ce que François ait cherché à s'échapper et à rompre ses liens. Personne n'eût trouvé mauvais qu'il s'évadât de Madrid, puisqu'il était au pouvoir d'un ennemi, mais tout bon chrétien lui jette la pierre pour avoir voulu se délivrer des liens de Dieu. Le pape ne le délia que plus tard de son serment. Il est honteux de tromper une confiance que nous avons librement cherché à gagner. Mais quand un homme veut nous tenir de son pouvoir par un serment, le rendre victime de l'insuccès de sa ruse et de sa défiance n'est pas une honte pour l'égoïsme. « Tu as voulu me lier ? Apprends donc que je puis rompre tes liens. » Est-ce moi qui ai donné à celui qui a confiance le droit de se fier à moi ? Toute la question est là. Qu'un homme qui poursuit mon ami me demande dans quelle direction il s'est enfui, je le mettrai certainement sur une fausse piste. Pourquoi vient-il s'adresser justement à moi, à l'ami de celui qu'il poursuit ? Plutôt que d'être un faux ami, plutôt que de trahir l'ami et l'amitié, je mentirai à l'ennemi. Je pourrais, il est vrai, répondre avec une courageuse droiture que je ne veux pas parler, c'est ainsi que Fichte résout la question. De cette manière, mon amour de la vérité sera sauf, mais j'aurai fait pour mon ami tout juste rien. Car si je ne dépiste pas l'ennemi, le hasard peut le mettre sur la bonne voie, et mon amour de la vérité aura livré mon ami en m'ôtant le courage du mensonge. Celui pour qui la vérité est une idole, une chose sacrée, doit s'humilier devant elle. Il ne peut pas braver ses exigences et y résister vaillamment. Bref, il doit renoncer à l'héroïsme du mensonge. Car le mensonge ne demande pas moins de courage que la vérité, et un courage dont sont dépourvus la plupart des jeunes gens. Ils aiment mieux confesser la vérité et monter pour elle sur l'échafaud que conserver en ayant le courage de mentir l'espoir de ruiner la puissance de l'ennemi. Pour eux, la vérité est sacrée, et ce qui est sacré exige toujours un culte aveugle fait de soumission et de sacrifice. Si vous manquez d'audace, si vous ne vous moquez pas du sacro-saint, il vous domestique et vous asservit. Qu'on amorce le piège d'un gain de vérité, vous vous y lancerez certainement tête baissée, et voilà un fou attrapé. Vous ne voulez pas mentir ? Eh bien, faites-vous égorger sur l'autel de la vérité et soyez martyr. Martyr au profit de qui ? De vous-même ? De votre individualité ? Non, de votre idole, de la vérité. Vous ne connaissez que deux espèces de services, que deux espèces de serviteurs. Les serviteurs de la vérité et les serviteurs du mensonge. Servez donc la vérité et que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres serviteurs de la vérité qui la servent avec mesure, et qui font, par exemple, une distinction entre le mensonge simple et le mensonge sous serment. Et pourtant, tout le chapitre du serment se confond avec celui de mensonge, car un serment n'est qu'une énonciation fortement affirmée. Vous vous croyez en droit de mentir parce que vous n'ajoutez pas un serment ? Ceux qui y regardent de près doivent condamner et damner le mensonge aussi sévèrement que le faux serment. Il s'est conservé dans la morale un vieux sujet de controverse que l'on a l'habitude de traiter sous le titre de mensonge officieux. Quiconque admet le mensonge officieux est obligé, pour être conséquent, d'admettre le serment officieux. Si mon mensonge se trouve justifié parce qu'il est un mensonge de nécessité, pourquoi serais-je assez pusillanime pour priver ce mensonge justifié de l'appui de la plus forte affirmation ? Quoi que je fasse, pourquoi ne le ferais-je pas tout à fait et sans restriction ? Et si je me mets à mentir, Pourquoi ne pas le faire complètement, en toute connaissance de cause et de toutes mes forces? Espion, je serai obligé de confirmer par serment toutes les fausses déclarations que je ferai à l'ennemi. Résolu à lui mentir, devrais-je tout à coup sentir ma résolution et mon courage faiblir si l'on m'acculait au serment? C'est qu'alors j'aurais été d'avance corrompu et rendu incapable de faire un menteur ou un espion, puisque je fournirais de mon plein gré à l'ennemi le moyen de me démasquer. L'État lui-même craint le mensonge et le serment officieux. Aussi n'admet-il pas l'accusé au serment. Mais vous ne justifiez pas la crainte de l'État. Vous mentez, mais vous ne prêtez pas de faux serments. Si vous avez par exemple rendu à quelqu'un un service qu'il doit ignorer, qu'il vienne à s'en douter et qu'il vous pose la question en face, vous nierez. S'il insiste, vous direz « Non, bien certainement non ». S'il fallait y venir au serment, vous reculeriez car la crainte du sacré vous arrête toujours à moitié chemin. Contre le sacré, vous êtes sans volonté propre. Vous mentez avec mesure, comme vous êtes libre avec mesure, religieux avec mesure, voire la fade controverse actuelle de l'université contre l'Église à propos des empiétements du clergé. Monarchique avec mesure, il vous faut un monarque lié par une constitution, une loi fondamentale de l'État. Que tout soit gentiment tempéré, bien tiède et bien doux, tant bien que mal. Il avait été convenu entre les étudiants d'une université que toute parole d'honneur qu'exigerait d'eux le juge universitaire serait nulle et non avenue. Ils ne voyaient en effet dans cette exigence qu'un piège, impossible à éviter si l'on n'enlevait pas toute signification à une parole donnée dans ces conditions. À la même université, quiconque manquait à sa parole d'honneur envers un condisciple était infâme, et quiconque avait donné sa parole au juge universitaire pouvait aller rire avec les mêmes condisciples aux dépens du juge trompé, qui se figurait qu'un serment a la même valeur entre amis et entre ennemis. Ce n'était pas tant la théorie que la nécessité pratique qui avait appris à ses étudiants à agir ainsi. Sans ce stratagème, ils auraient inévitablement été forcés de trahir et de dénoncer leurs amis. Mais si le moyen se justifiait pratiquement, il a aussi sa justification théorique. Une parole d'honneur ou un serment ne m'engage qu'envers celui à qui moi-même je donne le droit de les recevoir. Contraint à jurer de dire la vérité, je ne donnerai qu'une parole contrainte, c'est-à-dire hostile, la parole d'un ennemi. Vous n'avez pas le droit de vous y fier, car l'ennemi ne vous accorde pas ce droit. D'ailleurs, les tribunaux de l'État eux-mêmes ne reconnaissent pas l'inviolabilité du serment. Si j'avais juré à un homme contre qui la justice instruit de ne rien révéler à sa charge, la cour, sans tenir compte du serment qui me lie, ne manquerait pas d'exiger mon témoignage et, en cas de refus, de me faire enfermer jusqu'à ce que je me décide à devenir parjure. La cour me délie de mon serment. Quelle générosité! Seulement, s'il est au monde une puissance qui puisse me délier du serment, je suis certainement moi-même la première puissance qui ait droit de le faire. Comme curiosité, et pour rappeler toutes sortes de serments usuels, il est juste de donner place ici à celui que l'empereur Paul fit prêter aux prisonniers polonais Kosciuszko, Potocki, Niemcewicz, etc., lorsqu'il leur rendit la liberté. Nous jurons non seulement fidélité et obéissance à l'empereur, mais nous promettons de verser notre sang pour sa gloire. Nous nous engageons à dénoncer tout ce qui pourrait venir à notre connaissance de menaçant pour sa personne ou son empire. Nous déclarons enfin qu'en quelque point du monde que nous nous trouvions, un seul mot de l'empereur suffira pour que nous quittions tout et nous rendions à son appel. Il est un domaine où il semble que le principe de l'amour ait été depuis longtemps débordé par l'égoïsme, et où il paraît ne plus manquer qu'une chose, la conscience du bon droit dans la victoire. Ce domaine est celui de la spéculation sous ses deux formes, pensée et agiotage. On s'abandonne hardiment à sa pensée sans se demander ce qu'il en adviendra, et on se livre à toutes sortes d'opérations financières, malgré le grand nombre de ceux qui souffriront peut-être de nos spéculations. Mais bien que l'on ait dépouillé le dernier reste de religiosité, de romantisme ou d'humanité, Si une catastrophe finit par se produire, la conscience religieuse se réveille et on fait tout au moins profession d'humanité. Le spéculateur avide laisse tomber quelques sous dans le tronc des pauvres et fait du bien. Le penseur téméraire se console en songeant qu'il travaille au progrès du genre humain, que l'humanité se trouvera bien des ruines qu'il a faites, ou encore en se disant qu'il est au service de l'idée. L'humanité, l'idée sont pour lui ce quelque chose dont il est obligé de dire « cela est au-dessus de moi ». On a jusqu'aujourd'hui pensé et trafiqué pour l'amour de Dieu. Ceux qui, pendant 6 jours, ont tout foulé aux pieds en vue de leurs intérêts égoïstes, offrent, le 7e jour, un sacrifice au Seigneur. Ceux dont la pensée inexorable a bouleversé 1000 bonnes causes ne le faisaient que pour servir une autre bonne cause et sont obligés de penser non seulement à eux-mêmes, mais à un autre qui doit bénéficier de leur satisfaction personnelle, au peuple, à l'humanité, etc. Mais cet autre est un être au-dessus d'eux, un être supérieur, un être suprême, et c'est pourquoi je puis dire qu'il travaille pour l'amour de Dieu. Je puis par conséquent dire aussi que le principe de toutes leurs actions est l'amour. Non pas toutefois un amour volontaire, leur propriété à eux, mais un amour obligatoire appartenant à l'être suprême, c'est-à-dire à Dieu qui est l'amour même. Bref, non pas l'amour égoïste, mais l'amour religieux, un amour qui naît de l'illusion qu'ils doivent payer un tribut à l'amour, c'est-à-dire qu'il ne leur est pas permis d'être des égoïstes. Notre désir de délivrer le monde des liens qui entravent sa liberté n'a pas sa source dans notre amour pour lui, le monde, mais dans notre amour pour nous. N'étant ni par profession, ni par amour, les libérateurs du monde, nous voulons simplement en enlever la possession à d'autres et le faire nôtre. Il ne faut pas qu'il reste asservi à Dieu, l'Église, et à la loi, l'État, mais qu'il devienne notre propriété. Quand le monde est à nous, il n'exerce plus sa puissance contre nous, mais pour nous. Mon égoïsme a intérêt à affranchir le monde afin qu'il devienne ma propriété. L'état primitif de l'homme n'est pas l'isolement ou la solitude, mais bien la société. Au début de notre existence, nous nous trouvons déjà étroitement unis à notre mère, puisqu'avant même de respirer, nous partageons sa vie. Lorsqu'ensuite nous ouvrons les yeux à la lumière, c'est pour reposer encore sur le sein d'un être humain qui nous bercera sur ses genoux, qui guidera nos premiers pas et nous enchaînera à sa personne par les 1000 liens de son amour. La société est notre état de nature. C'est pourquoi l'union qui a d'abord été si intime se relâche peu à peu, à mesure que nous apprenons à nous connaître, et la dissolution de la société primitive devient de plus en plus manifeste. Si la mère veut, une fois encore, avoir pour elle seule l'enfant qu'elle a porté, il faut qu'elle aille l'arracher à la rue et à la société de ses camarades. L'enfant préfère les relations qu'il a nouées avec ses semblables à la société dans laquelle il n'est pas entré, où il n'a fait que naître. Mais l'union ou l'association sont la dissolution de la société. Il est vrai qu'une association peut dégénérer en société comme une pensée peut dégénérer en idée fixe. Cela a lieu quand dans la pensée s'éteint l'énergie pensante, le penser lui-même. Ce perpétuel désaveu de toutes les pensées qui tendent à prendre trop de consistance. Lorsqu'une association s'est cristallisée en société, elle cesse d'être une association, car l'association veut que l'action de s'associer soit permanente. Elle ne consiste plus que dans le fait d'être associée, elle n'est plus que l'immobilité, la fixité. Elle est morte comme association, elle est le cadavre de l'association, c'est-à-dire qu'elle est société-communauté. Une analogie frappante rapproche sous ce rapport l'association du parti. Qu'une société, l'État par exemple, restreigne ma liberté, cela ne me trouble guère, car je sais bien que je dois m'attendre à voir ma liberté limitée par toutes sortes de puissances, par tout ce qui est plus fort que moi, même par chacun de mes voisins, quand je serai l'autocrate de toutes les R points de suspension, je ne jouirai pas de la liberté absolue. Mon individualité, au contraire, je n'entends pas la laisser entamer. Et c'est précisément à l'individualité que la société s'attaque, c'est elle qui doit succomber sous ses coups. Une société à laquelle je m'attache m'enlève bien certaines libertés, mais en revanche, elle m'en assure d'autres. Il importe de même assez peu que je me prive moi-même, par exemple par un contrat, de telle ou telle liberté. Par contre, je défendrai jalousement mon individualité. Toute communauté a une tendance, plus ou moins grande, d'après la somme de ses forces, à devenir pour ses membres une autorité, et à leur imposer des limites. Elle leur demande, et doit leur demander, un certain esprit d'obéissance. Elle exige que ses membres lui soient soumis, soient ses sujets. Elle n'existe que par la sujétion. Cela ne veut pas dire qu'elle ne puisse faire preuve d'une certaine tolérance. Au contraire, elle fera bon accueil aux projets d'amélioration, aux conseils et aux critiques, pour autant qu'ils ont en vue son bénéfice. Mais la critique doit se montrer bienveillante. On ne lui permet pas d'être insolente et irrévérencieuse. En d'autres termes, il faut laisser intacte et tenir pour sacré la substance de la société. La société ne prétend pas que ses membres s'élèvent et se placent au-dessus d'elle. Elle veut qu'ils restent dans les bornes de la légalité, c'est-à-dire qu'ils ne se permettent que ce que leur permettent la société et ses lois. Il y a loin d'une société qui ne restreint que ma liberté à une société qui restreint mon individualité. La première est une union, un accord, une association. Mais celle qui menace l'individualité est une puissance pour soi et au-dessus de moi. Une puissance qui m'est inaccessible, que je peux bien admirer, honorer, respecter, adorer, mais que je ne puis ni dominer ni mettre à profit, parce que devant elle, je me résigne et j'abdique. La société est fondée sur ma résignation, mon abnégation, ma lâcheté, que l'on nomme humilité. Mon humilité fait sa grandeur, ma soumission sa souveraineté. Mais sous le rapport de la liberté, il n'y a pas de différence essentielle entre l'État et l'association. Pas plus que l'État n'est compatible avec une liberté illimitée, l'association ne peut naître et subsister si elle ne restreint de toute façon la liberté. On ne peut nulle part éviter une certaine limitation de la liberté, car il est impossible de s'affranchir de tout. On ne peut pas voler comme un oiseau pour la seule raison qu'on le désire, car on ne se débarrasse pas de sa pesanteur. On ne peut pas vivre à son gré sous l'eau comme un poisson, car on a besoin d'air, c'est là un besoin dont on ne peut s'affranchir, et ainsi de suite. La religion, et en particulier le christianisme, ayant torturé l'homme en exigeant de lui qu'il réalise le contre-nature et l'absurde, c'est par une conséquence naturelle de cette impulsion religieuse extravagante que l'on en vint à élever au rang d'idéal la liberté en soi, la liberté absolue, ce qui était étalé au plein jour l'absurdité des vœux impossibles. L'association procurant une plus grande somme de liberté pourra être considérée comme une nouvelle liberté. On y échappe en effet à la contrainte inséparable de la vie dans l'État ou la société. Toutefois, les restrictions à la liberté et les obstacles à la volonté n'y manqueront pas, car le but de l'association n'est pas précisément la liberté qu'elle sacrifie à l'individualité, mais cette individualité elle-même. Relativement à celle-ci, la différence est grande entre État et association. L'État est l'ennemi, le meurtrier de l'individu. L'association en est la fille et l'auxiliaire. Le premier est un esprit, qui veut être adoré en esprit et en vérité. La seconde est mon œuvre, elle est née de moi. L'État est le maître de mon esprit, il veut que je croie en lui et m'impose un credo. Le credo de la légalité. Il exerce sur moi une influence morale, il règne sur mon esprit, il proscrit mon moi pour se substituer à lui comme mon vrai moi. Bref, l'État est sacré, et en face de moi, l'individu, il est le véritable homme, l'esprit, le fantôme. L'association, au contraire, est mon œuvre, ma créature. Elle n'est pas sacrée et n'est pas une puissance spirituelle supérieure à mon esprit. Je ne veux pas être l'esclave de mes maximes, mais je veux qu'elles restent sans aucune garantie, exposées sans cesse à ma critique. Je ne leur accorde aucun droit de cité chez moi. Mais j'entends encore moins engager mon avenir à l'association et lui vendre mon âme, comme on dit quand il s'agit du diable et comme c'est réellement le cas quand il s'agit de l'État ou d'une autorité spirituelle. Je suis et je reste pour moi plus que l'État, plus que l'Église, Dieu, etc. et par conséquent, infiniment plus aussi que l'association. La société que le communisme se propose de fonder paraît à première vue se rapprocher extrêmement de l'association telle que je l'entends. Le but qu'elle se propose est le bien de tous. Et lorsqu'on dit de tous, il faut entendre, Wettling ne se lasse pas de le répéter, d'absolument tous, de tous sans exception. Il semble bien, en réalité, que personne n'y doive être désavantagé. Mais quel sera donc ce bien ? Y a-t-il un seul et même bien pour tous ? Tous se trouveront-ils également bien d'une seule et même chose ? S'il en est ainsi, c'est du vrai bien qu'il s'agit. Et nous voilà amenés précisément au point où commence la tyrannie de la religion. Le christianisme dit « Ne vous arrêtez pas aux vanités de ce monde, cherchez votre vrai bien, devenez de pieux chrétiens. Être chrétien, voilà le vrai bien. C'est le vrai bien de tous, parce que c'est le bien de l'homme comme tel, du fantôme. Mais le bien de tous est-il nécessairement mon bien et ton bien ? Et si pour toi et pour moi ce bien-là n'en est pas un, aura-t-on soin de nous procurer ce dont nous jugeons devoir nous trouver bien ? Au contraire, la société ayant décrété que le vrai bien est telle ou telle chose, par exemple la jouissance honnêtement acquise par le travail, s'il arrive que tu préfères, toi, les délices de la presse, la jouissance sans le travail, la société qui veille au bien de tous se gardera d'étendre sa sollicitude à ce qui pour toi est le bien. Le communisme, qui se fait le champion du bien de tous les hommes, anéantit précisément le bien-être de ceux qui ont jusqu'à présent vécu de leur rente et qui s'en trouvent probablement mieux que des heures de travail strictement réglées que leur promet Wettling. Le même Wettling affirme que le bien-être de quelques milliers d'hommes ne peut être mis en balance avec le bien-être de plusieurs millions d'autres, et il exhorte les premiers à renoncer à leurs avantages particuliers pour l'amour du bien général. Non, n'exigez pas des gens qu'ils sacrifient la moindre partie de ce qu'ils ont à la communauté. C'est là une façon chrétienne de présenter les choses avec laquelle vous n'aboutirez à rien. Exhortez-les, au contraire, à ne se laisser arracher ce qu'ils ont par personne, engagez-les à s'en assurer la possession de façon qu'elle soit durable. Ils vous comprendront beaucoup mieux. Et ils en viendront alors d'eux-mêmes à se dire que le meilleur moyen de soigner leurs biens c'est de s'allier dans ce but avec d'autres, c'est-à-dire de sacrifier une partie de leur liberté, non pas dans l'intérêt de tous, mais dans leur propre intérêt. Comment peut-on encore être tenté de faire appel à l'esprit de sacrifice et à l'amour désintéressé des hommes ? On ne sait que trop que ces beaux sentiments n'ont produit, après une gestation de plusieurs milliers d'années, que la présente misère. Pourquoi s'obstiner à attendre encore de l'abnégation la venue de temps meilleur ? Pourquoi ne pas mettre plutôt son espoir dans l'usurpation ? Ce n'est plus des débonnaires et des miséricordieux, ce n'est plus de ceux qui donnent et de ceux qui aiment que viendra le salut, mais uniquement de ceux qui prendront, qui s'approprieront et qui sauront dire « Ceci est à moi ». Le communisme compte encore toujours sur l'amour, et conscient ou inconscient, l'humanitaire qui bafoue l'égoïsme ne sort pas de la même ornière. Quand la communauté est devenue pour l'homme un besoin, quand il trouve qu'elle l'aide à réaliser ses desseins, elle ne tarde pas, prenant rang de principe, à lui imposer ses lois, les lois de la société. Le principe des hommes arrive ainsi à régner souverainement sur eux. Il devient leur être suprême, leur Dieu, et comme tel, leur législateur. Le communisme conduit ce principe jusqu'à ses plus rigoureuses conséquences, et le christianisme est la religion de la société, car, comme Feuerbach le dit justement, bien que sa pensée ne soit pas juste, l'amour est l'essence de l'homme, c'est-à-dire l'essence de la société ou de l'homme social, communiste. Toute religion est un culte de la société, du principe qui régit l'homme social, l'homme cultivé. Aussi, nul dieu n'est-il jamais le dieu exclusif d'un moi ? Toujours un dieu est le dieu d'une société ou d'une communauté, d'une famille, l'art, pénate, d'un peuple, dieux nationaux, ou de tous les hommes. Il est le père de tous les hommes. que l'on n'espère point arriver à détruire de fond en comble la religion tant que l'on n'aura pas auparavant mis au rebut la société et tout ce qu'implique son principe. Or, c'est précisément à l'heure du communisme que ce principe passe au méridien, attendu qu'alors tout doit être commun afin que règne l'égalité. Cette égalité, une fois conquise, la liberté ne manquera pas non plus, mais la liberté de qui ? De la société. La société, alors, est le grand pan, et les hommes n'existent plus que les uns pour les autres. C'est l'apothéose de l'amour-État. Pour moi, j'aime mieux avoir recours à l'égoïsme des hommes qu'à leur service d'amour, à leur miséricorde, à leur charité, etc. L'égoïsme exige la réciprocité, donnant-donnant. Il ne fait rien pour rien, et s'il offre ses services, c'est pour qu'on les achète. Mais le service d'amour, comment me le procurer ? C'est le hasard qui fera que j'aurai justement affaire à un bon cœur. Et je ne puis émouvoir la charité qu'en mendiant ses services, soit par mon extérieur misérable, soit par ma détresse, ma misère, ma souffrance. Et que puis-je lui offrir en échange de son assistance ? Rien. Il faut que je la reçoive comme un cadeau. L'amour ne se paie pas, ou, disons mieux, l'amour peut bien se payer, mais seulement en amour. Un service en vaut un autre. Quelle misère, quelle gueuserie que de recevoir d'année en année, sans jamais rien rendre en échange, les dons que nous fait, par exemple, régulièrement le pauvre manœuvre ? Celui qui reçoit ainsi, que peut-il faire pour l'autre en échange de ses sous, dont l'accumulation forme pourtant toute sa fortune ? Le manœuvre aurait plus de jouissance si celui qui l'engraisse de ses laborieux bienfaits n'existait pas, ni ses lois et ses institutions qu'il paye par-dessus le marché. Et malgré tout, le pauvre diable aime encore son maître. Non, la communauté comme but de l'histoire jusqu'à ce jour est impossible. Défaisons-nous au plus tôt de toute illusion hypocrite à ce sujet et reconnaissons que si c'est en tant qu'homme que nous sommes égaux, égaux nous ne le sommes pas, attendu que nous ne sommes pas hommes. Nous ne sommes égaux qu'en tant que pensée. Ce qu'il y a d'égal en nous, c'est nous, tel que nous nous concevons et non tel que nous sommes en réalité et en personne. Je suis moi et tu es moi, mais je ne suis pas ce moi pensé. Il n'est lui par qui nous sommes tous égaux que ma pensée. Je suis homme et tu es homme, mais homme n'est qu'une idée, une généralité abstraite. Ni moi ni toi ne pouvons être exprimés. Nous sommes indicibles parce qu'il n'y a que les idées qui puissent être exprimées et se fixer par la parole. Cessons donc d'aspirer à la communauté, ayons plutôt en vue la particularité. Ne recherchons plus la vaste collectivité, la société humaine, ne cherchons dans les autres que des moyens et des organes à mettre en œuvre comme notre propriété. Dans l'arbre et dans l'animal, nous ne voyons pas nos semblables, et l'hypothèse d'après laquelle les autres seraient nos semblables prend sa source dans une hypocrisie. Personne n'est mon semblable, mais semblable à tous les autres êtres, l'homme est pour moi une propriété. On a beau me dire que je dois me comporter en homme envers le prochain et que je dois respecter mon prochain. Personne n'est pour moi un objet de respect. Mon prochain, comme tous les autres êtres, est un objet pour lequel j'ai ou je n'ai pas de sympathie, un objet qui m'intéresse ou ne m'intéresse pas, dont je puis ou dont je ne puis pas me servir. S'il peut m'être utile, je consens à m'entendre avec lui, à m'associer avec lui, pour que cet accord augmente ma force, pour que nos puissances réunies produisent plus que l'une d'elles ne pourrait faire isolément. Mais je ne vois dans cette réunion rien d'autre qu'une augmentation de ma force, et je ne la conserve que tant qu'elle est ma force multipliée. Dans ce sens-là, elle est une association. L'association n'est maintenue ni par un lien naturel, ni par un lien spirituel. Elle n'est ni une société naturelle, ni une société morale. Ce n'est ni l'unité de sang, ni l'unité de croyance, c'est-à-dire d'esprit, qui lui donne naissance. Dans une société naturelle, comme une famille, une tribu, une nation, ou même l'humanité, les individus n'ont que la valeur d'exemplaires d'un même genre ou d'une même espèce. Dans une société morale, comme une communauté religieuse ou une église, l'individu ne représente qu'un membre animé de l'esprit commun. Dans l'un comme dans l'autre cas, ce que tu es comme unique doit passer à l'arrière-plan et s'effacer. Ce n'est que dans l'association que votre unicité peut s'affirmer, parce que l'association ne vous possède pas, mais que vous la possédez et que vous vous servez d'elle. Dans l'association, et dans l'association seule, la propriété prend sa véritable valeur et est réellement propriété, attendu que je n'y dois plus à personne ce qui est à moi. Les communistes ne font que consacrer logiquement un état de choses qui dure depuis qu'a commencé l'évolution religieuse et dont l'État donne la formule. Une féodalité ayant en somme à sa base la négation de la propriété. L'État s'efforce de discipliner les appétits. En d'autres termes, il cherche à faire en sorte qu'ils se tournent vers lui seul, et à les satisfaire au moyen de ce qu'il a à leur offrir. Rassasier un appétit pour l'amour de celui qui l'éprouve est une idée qui ne saurait venir à l'État. Il flétrit du nom d'égoïste celui qui manifeste des désirs déréglés, et l'homme égoïste est son ennemi. Il l'est parce que l'État, incapable de comprendre l'égoïste, ne peut s'entendre avec lui. Comme l'État, et il ne pourrait en être autrement, ne s'occupe que de lui-même, il ne s'informe pas de mes besoins et ne s'inquiète de moi que pour me corrompre et me fausser, c'est-à-dire pour faire de moi un autre moi, un bon citoyen. Il prend une foule de mesures pour améliorer les mœurs. Et par quels moyens s'attachent-ils les individus? Au moyen de lui-même, c'est-à-dire de ce qui est à l'État, de la propriété de l'État. Il s'occupe sans relâche à faire participer tout le monde à ses biens, à faire profiter tout le monde des avantages de l'instruction. Il vous donne son éducation, il vous ouvre l'accès de ses établissements d'instruction, il vous met à même d'arriver par les voies de l'industrie à la propriété, c'est-à-dire à l'inféodation. Seigneur généreux, il n'exige de vous, en échange de cette investiture, que le légitime hommage d'une perpétuelle reconnaissance. Mais les vassaux ingrats et félons oublient de s'acquitter de cette redevance. La société, à son tour, ne peut agir d'une façon essentiellement différente. Tu apportes dans l'association toute ta puissance, toute ta richesse, et tu t'y fais valoir. Dans la société, toi et ton activité êtes utilisés. Dans la première, tu vis en égoïste, dans la seconde, tu vis en homme, c'est-à-dire religieusement. Tu y travailles à la vigne du Seigneur. Tu dois à la société tout ce que tu as, tu es son obligé et tu es obsédé de devoirs sociaux. À l'association, tu ne dois rien, elle te sert et tu la quittes sans scrupule dès que tu n'as plus d'avantage à en tirer. Si la société est plus que toi, tu la feras passer avant toi et tu t'en feras le serviteur. L'association est ton outil, ton arme. Elle aiguise et multiplie ta force naturelle. L'association n'existe que pour toi et par toi. La société, au contraire, te réclame comme son bien et elle peut exister sans toi. Bref, la société est sacrée et l'association est ta propriété. La société se sert de toi et tu te sers de l'association. On ne manquera probablement pas de nous objecter que l'accord que nous avons conclu peut devenir gênant et limiter notre liberté. On dira qu'en définitive, nous en venons aussi à ce que chacun devra sacrifier une partie de sa liberté dans l'intérêt de la communauté. Mais ce n'est nullement à la communauté que ce sacrifice sera fait, pas plus que ce n'est pour l'amour de la communauté ou de qui que ce soit que j'ai contracté. Si je m'associe, c'est dans mon intérêt, et si je sacrifiais quelque chose, ce serait encore dans mon intérêt, par pur égoïsme. D'ailleurs, en fait de sacrifice, je ne renonce qu'à ce qui échappe à mon pouvoir, c'est-à-dire que je ne sacrifie rien du tout. Pour en revenir à la propriété, c'est donc le maître qui est propriétaire. Et maintenant, choisis. Veux-tu être le maître ou veux-tu que la société soit maîtresse? Il dépendra de là que tu sois un propriétaire ou un gueux. L'égoïsme fait le propriétaire, la société fait le gueux. Or, gueuserie ou absence de propriété, tel est le sens de la féodalité, du régime de vassalage qui, depuis le siècle dernier, n'a fait que changer de maître en mettant l'homme à la place du Dieu et en faisant un fief de l'homme de ce qui auparavant était un fief accordé par la grâce divine. Nous avons montré plus haut que la gueuserie du communisme est par le principe humanitaire poussée jusqu'à la gueuserie absolue, jusqu'à la plus gueuse des gueuseries. Mais nous avons montré aussi que ce n'est que par cette voie que la gueuserie peut aboutir à l'individualité. L'ancien régime féodal a été si complètement anéanti par la Révolution que toute réaction, quelque habileté qu'elle déploie à galvaniser le cadavre du passé, est désormais condamnée à avorter misérablement, car ce qui est mort est mort. Mais la résurrection aussi devait, dans l'histoire du christianisme, se montrer comme une vérité. Elle l'a fait dans un monde nouveau, la féodalité est ressuscitée avec un corps transfiguré, féodalité nouvelle sous la haute suzeraineté de l'homme. Le christianisme est loin d'être anéanti, et ses fidèles ont eu raison de voir avec confiance dans les assauts qu'on lui a livrés jusqu'à présent de simples preuves dont il ne devait sortir que plus pur et plus fort. Il n'a fait en réalité que se transfigurer, et le christianisme qu'on vient de découvrir est l'humain. Nous vivons encore en pleine ère chrétienne. Ce sont précisément ceux que cela irrite le plus qui contribuent le plus à la faire durer. Plus la féodalité s'est faite humaine, plus elle nous est devenue chère. Nous ne reconnaissons plus le caractère de féodalité dans ce que, plein de confiance, nous prenons pour notre propriété. Et nous croyons avoir trouvé ce qui est à nous quand nous découvrons ce qui est à l'homme. Si le libéralisme veut me donner ce qui est à moi, ce n'est point qu'il y voit le bien, mais l'humain. Comme si, sous ce déguisement, il m'était possible de l'atteindre. Les droits de l'homme eux-mêmes, ce produit tant vanté de la Révolution, doivent s'entendre dans ce sens. L'homme qui est en moi me donne droit à telle et telle chose. En tant qu'individu, c'est-à-dire tel que je suis, je n'ai aucun droit. Les droits sont l'apanage de l'homme, et c'est lui qui m'autorise et me justifie. Comme homme, je puis avoir un droit, mais je suis plus qu'homme, je suis un homme particulier. Aussi ce droit peut-il m'être refusé à moi, au particulier. Mais si vous savez faire cas de votre richesse, si vous tenez à haut prix vos talents, si vous ne permettez pas qu'on vous force à les vendre au-dessous de leur valeur, si vous ne vous laissez pas mettre en tête que votre marchandise n'est pas précieuse, si vous ne vous rendez pas ridicule par un prix dérisoire, mais si vous imitez le brave qui dit « Je vendrai cher ma vie, ma propriété », l'ennemi ne l'aura pas à bon marché. Alors vous aurez reconnu comme vrai le contraire du communisme, et l'on ne pourra plus vous dire « Renoncez à votre propriété ». Vous répondriez « Je veux en profiter ». Au fronton de notre siècle, on ne lit plus la maxime delphique « Connais-toi toi-même, mais bien, exploite-toi toi-même ». Proudhon dit que la propriété, c'est le vol. Mais la propriété d'autrui, il ne parle que de celle-là. N'existe que par le fait d'une renonciation, d'un abandon, comme une conséquence de mon humilité. Elle est un cadeau. Que signifient alors toutes ces grimaces sentimentales? Pourquoi faire appel à la compassion comme un pauvre volé quand on n'est qu'un imbécile et un lâche faiseur de cadeaux? Et pourquoi rejeter toujours la faute sur les autres et les accuser de nous voler alors que c'est nous-mêmes qui sommes en faute en ne les volant pas? S'il y a des riches, la faute en est aux pauvres. En général, personne ne s'indigne et ne proteste contre sa propre propriété. On ne s'irrite que contre celle d'autrui. Chacun, pour sa part, veut augmenter et non diminuer ce qu'il peut appeler sien et voudrait pouvoir appeler tout ainsi. Ce n'est en réalité pas à la propriété qu'on s'attaque, mais à la propriété étrangère. Ce que l'on combat, c'est pour former un mot qui fasse le pendant de propriété, l'aliénité. Et comment s'y prend-on? Au lieu de transformer l'aliénium en proprium et de s'approprier le bien étranger, on se donne des airs d'impartialité et de détachement, et l'on demande seulement que toute propriété soit abandonnée à un tiers, par exemple à la société humaine. On revendique le bien étranger, non pas en son nom à soi, mais au nom d'un tiers. Alors toute trace d'égoïsme disparaît. et tout devient, on ne peut plus pur, on ne peut plus humain. Radicale inhabilité de l'individu à être propriétaire, radicale gueuserie, telle est l'essence du christianisme et de toute religiosité, piété, moralité, humanité. Tel est le principe jadis voilé qu'a mis en tête de son joyeux message la religion nouvelle. C'est l'évolution de ce nouvel évangile que nous avons sous les yeux dans la lutte qui se livre actuellement contre la propriété et qui doit conduire l'homme à la victoire. La victoire de l'humanité, c'est le triomphe du christianisme. Et ce christianisme qui vient seulement d'être découvert est la féodalité parfaite, la servitude universelle, la parfaite gueuserie. Est-ce donc une nouvelle révolution qu'appelle cette féodalité nouvelle ? Révolution et insurrection ne sont pas synonymes. La première consiste en un bouleversement de l'ordre établi, du statut de l'État ou de la société. Elle n'a donc qu'une portée politique ou sociale. La seconde entraîne bien comme conséquence inévitable le même renversement des institutions établies. Mais là n'est point son but. Elle ne procède que du mécontentement des hommes. Elle n'est pas une levée de boucliers, mais l'acte d'individus qui s'élèvent, qui se redressent, sans s'inquiéter des institutions qui vont craquer sous leurs efforts, ni de celles qui pourront en résulter. La révolution avait en vue un régime nouveau. L'insurrection nous mène à ne plus nous laisser régir, mais à nous régir nous-mêmes, et elle ne fonde pas de brillantes espérances sur les institutions à venir. Elle est une lutte contre ce qui est établi, en ce sens que, lorsqu'elle réussit, ce qui est établi s'écroule tout seul. Elle est mon effort pour me dégager du présent qui m'opprime, et dès que je l'ai abandonné, ce présent est mort et tombe en décomposition. En somme, mon but n'étant pas de renverser ce qui est, mais de m'élever au-dessus de lui, mes intentions et mes actes n'ont rien de politique ni de social. N'ayant d'autre objet que moi et mon individualité, ils sont égoïstes. La révolution ordonne d'instituer, d'instaurer, l'insurrection veut qu'on se soulève ou qu'on s'élève. Le choix d'une constitution, tel était le problème qui préoccupait les cerveaux révolutionnaires. Toute l'histoire politique de la révolution est remplie par des luttes constitutionnelles et des questions constitutionnelles. De même que les génies du socialisme se sont montrés étonnamment féconds en institutions sociales, Palanster, etc. C'est au contraire à s'affranchir de toute constitution que tend l'insurgé. Je cherchais une comparaison afin de rendre plus clair ce que je viens de dire. Et voici que ma pensée se reporte au premier temps de la fondation du christianisme. Dans le camp libéral, on reproche aux premiers chrétiens d'avoir prêché l'obéissance aux lois païennes existantes, d'avoir prescrit de reconnaître l'autorité païenne et d'avoir franchement ordonné de rendre à César ce qui est à César. Quel soulèvement pourtant à ce moment contre la domination romaine ! Combien les Juifs, combien les Romains eux-mêmes se montraient séditieux envers le pouvoir qui régissait le monde ! En un mot, combien général était le mécontentement politique ! Mais les chrétiens ne voulurent pas s'en apercevoir, ni s'associer aux tendances libérales de l'époque. Les passions politiques étaient alors tellement surexcitées que, comme on le voit dans les évangiles, on ne crut pas pouvoir accuser avec plus de succès le fondateur du christianisme qu'en lui imputant des machinations politiques. Les mêmes évangiles nous apprennent pourtant que personne ne s'intéressait moins que lui aux menées politiques ambiantes. Pourquoi donc ne fut-il pas un révolutionnaire ou un démagogue, comme les Juifs auraient voulu le faire croire ? Pourquoi ne fut-il pas un libéral ? Parce qu'il n'attendait pas le salut du remaniement des institutions, et que toute la boutique gouvernementale et administrative lui était totalement indifférente. Il n'était pas un révolutionnaire, comme le fut par exemple César, mais un insurgé. Il ne cherchait pas à renverser un gouvernement, mais à se relever lui-même. Aussi s'en tenait-il à sa maxime. Soyez prudents comme les serpents, dont le « rendez à César ce qui appartient à César » n'était que l'application à un cas spécial. En effet, il ne faisait pas une campagne libérale ou politique contre l'autorité établie, mais il voulait, sans s'inquiéter de cette autorité, ni s'en laisser troubler, suivre sa propre voie. Les ennemis du gouvernement ne lui étaient pas moins indifférents que le gouvernement lui-même, car de part et d'autre, on ne comprenait pas ce qu'il voulait, et il lui suffisait de se tenir, avec la prudence du serpent, aussi loin que possible des uns et des autres. Mais sans être un séditieux, un démagogue ou un révolutionnaire, il n'en fut pas moins, comme chacun des chrétiens primitifs, un insurgé, s'élevant au-dessus de tout ce que le gouvernement et ses adversaires tenaient pour auguste, s'affranchissant de tous les liens qui entravaient les uns et les autres et détruisant en même temps les sources de la vie du monde païen tout entier, devenu du reste incapable de maintenir dans son éclat le système établi. C'est précisément parce qu'il ne visait pas au renversement de l'ordre établi qu'il en fut le plus mortel ennemi et le véritable destructeur. Car il le mura dans son tombeau, et, tranquille, sans un regard pour les vaincus, il éleva son temple à lui sans prêter l'oreille aux cris de douleur de ceux qu'il avait ensevelis sous leurs ruines. Et maintenant ce qui est arrivé au monde païen arrivera-t-il au monde chrétien ? Une révolution ne conduira certainement pas au but si d'abord une insurrection ne s'est accomplie. À quoi tendent mes relations avec le monde ? Je veux en jouir. Il faut pour cela qu'il soit ma propriété et je veux donc le conquérir. Je ne veux pas la liberté des hommes, je ne veux pas l'égalité des hommes, je ne veux que ma puissance sur les hommes. Je veux qu'il soit ma propriété, c'est-à-dire qu'il serve à ma jouissance. Et s'il s'oppose à mes désirs, eh bien, le droit de vie et de mort que se sont réservés l'Église et l'État, je déclare que lui aussi est à moi. Flétrissez cette veuve d'officier qui, durant la retraite de Russie, ayant eu la jambe emportée par un boulet, défit sa jarretière, étrangla son enfant, puis se coucha pour mourir à côté du cadavre. Flétrissez la mémoire de cette mère infanticide. Qui sait si cet enfant était resté en vie? Quel service il eût pu rendre au monde. Et la mère le tua parce qu'elle voulait mourir contente et tranquille. Cette histoire émeut peut-être encore votre sentimentalité, mais vous n'en savez rien tirer d'autre. Soit, pour moi, je veux montrer par cet exemple que c'est mon contentement qui décide de mes rapports avec les hommes et qu'il n'y a pas d'accès d'humilité qui puisse me faire renoncer au pouvoir de vie et de mort. Quant aux devoirs sociaux en général, ce n'est pas à un tiers à fixer ma position vis-à-vis des autres. Ce n'est par conséquent ni Dieu ni l'humanité qui peuvent déterminer les rapports entre moi et les hommes. C'est moi qui prends position. Cela revient à dire plus nettement, je n'ai pas de devoir envers les autres, pas plus que je n'ai de devoir envers moi. Par exemple, le devoir de la conservation opposé au suicide. À moins que je ne me distingue moi-même, mon âme immortelle, de mon existence terrestre, etc. Je ne m'humilie plus devant aucune puissance. Je reconnais que toute puissance n'est que la mienne et que je dois l'abattre dès qu'elle menace de devenir opposée ou supérieure à moi. Toute puissance ne peut être considérée que comme un des moyens d'arriver à mes fins, de même qu'un chien de chasse est une puissance à notre service contre l'animal sauvage, mais que nous le tuons s'il vient à nous attaquer nous-mêmes. Toutes les puissances qui furent mes maîtresses, je les rabaisse donc au rôle de mes servantes. Les idoles n'existent que par moi. Il suffit que je ne les crée plus pour qu'elles ne soient plus. Il n'y a de puissance supérieure que parce que je les élève et me mets au-dessous d'elles. Voici donc en quoi consistent mes rapports avec le monde. Je ne fais plus rien pour lui, pour l'amour de Dieu. Je ne fais plus rien pour l'amour de l'homme, mais ce que je le fais pour l'amour de moi. Ainsi seulement le monde peut me satisfaire. Tandis que pour celui qui le considère au point de vue religieux, avec lequel, notez-le bien, je confonds le point de vue moral et humain, le monde reste un pieux désir, c'est-à-dire un au-delà, un inaccessible. Telles sont l'universelle félicité, le monde moral où régnerait l'amour universel, la paix éternelle, l'extinction de l'égoïsme, etc. Rien dans ce monde n'est parfait. Sur cette triste parole, les bons s'en détournent et se réfugient près de Dieu dans leur oratoire, ou dans l'orgueilleux sanctuaire de leur conscience. Mais nous, nous demeurons dans ce monde imparfait, tel qu'il est. Nous savons le faire servir à notre jouissance. Mes relations avec le monde consistent en ce que je jouis de lui et l'emploie à ma jouissance. Relation équivaut à jouissance du monde, et cela rentre dans ma jouissance de moi.